Parole de lecteur. Parole de lecteur. Une émission de Monique Fauché.
L'émission Parole d'auteur donne la parole à ceux qui participent à la vie de Radio Présence et qui vont vous confier leur coup de cœur littéraire. Alors, je vais d'abord donner la parole à notre doyen Pierre Bruel, l'homme. Non, oui, vous n'êtes pas un dinosaure, Pierre. L'homme du théâtre, bien connu de tous, y compris des directeurs de salles de théâtre, et qui maintenant s'est tourné vers une valeur très sûre, à savoir La Fontaine. Voilà. Alors, c'est l'émission.
C'est l'émission L'Instant à Fable.
L'Instant à Fable. Et qu'avez-vous choisi à offrir à nos auditeurs?
Oh là, vous allez être extrêmement surprise, Monique Fauché. Je voudrais parler d'un livre qui m'a marqué depuis longtemps, même depuis ma petite jeunesse, que j'ai beaucoup aimé et que j'aurais plaisir à faire mieux connaître. Un livre qui, chaque matin, me semble parler de mon époque, publié en 68 à la librairie Barbin.
Quel suspense !
Je veux dire en 1668, sous son vrai titre, qui n'a jamais été pris ensuite avec le vrai titre. Le vrai titre, c'est « Fables choisies et mises en vers par Jean de La Fontaine ». Et non pas, comme l'annoncent tous les bouquins scolaires, La Fontaine, fable. Et des fables très souvent châtrées, au moins jusqu'à 1968. Avec des vers bidouillés dans les éditions scolaires, des vers carrément censurés, et même, qui dit mieux, une fable totalement sautée, ce qui change toutes les paginations, les numéros des livres, les numéros des pages.
D'accord. Mais là, vous vous attaquez à une valeur sûre.
Ah là, oui. Hein,
vous êtes en pays connu,
ah,
en plus.
Oui,
parce
un petit peu. Bon.
Toutes les semaines, voilà. Nous allons à vos côtés sur les traces de La Fontaine.
Alors, les fables ne sont pas un parc zoologique, c'est l'humanité travestie, dit hier, d'aujourd'hui et je pense de demain. Les fables sont des vraies boîtes à secrets. Par exemple, deux vrais amis vivaient au Monomotapa. Alors il y a des grandes éditions annotées par des très grands professeurs de faculté qui, dans un discours un petit peu pédant, vous disent Monomotapa, pays africain, entre tel parallèle et tel méridien, enfin bon, des choses qui n'ont
si
absolument...
Si ça nous perd un peu de géo, c'est peut-être pas
oui,
mal.
Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand un manuscrit n'avait pas reçu l'aval de Louis XIV et qu'il était interdit, le bouquin était imprimé à l'étranger et malicieusement, on mettait livre imprimé au Monomotapa. Ce qui change tout, bien entendu.
D'accord.
La Fontaine, quand il parle de Louis XIV et qu'il en dit du bien, il dit « le lion ». Mais quand il l'attaque, il écrit « les lions ». Et ça, c'est La Fontaine. C'est bourré sans arrêt de petits clins d'œil comme ça. D'ailleurs, les fables de La Fontaine, en anagramme, ça donne « la fin des nobles à la fête ». Vous pouvez vérifier.
Ah oui, alors à la manière peut-être de Marivaux ou de certains...
Absolument. Oui, oui. Tout est codé. Son imitation n'est pas un esclavage. Et mon petit-neveu m'a dit, Tonton La Fontaine, il n'a rien que fait que copier Ésope. Oui,
on l'a dit.
Oui, il a copié Ésope. Je suis en train de répertorier tous les auteurs que La Fontaine a adaptés. C'est absolument incroyable.
Il a été imité lui-même.
Alors oui, c'est imité et formal imité à mon humble avis. Et il s'est inspiré d'auteurs de moins de 2000 avant Jésus-Christ jusqu'à son époque. Des Italiens, des Grecs, des gens qui sont du Nord, comme il dit, et ceux qui sont du Midi, etc. etc. La liste que j'ai faite, elle est incroyablement longue.
Nous n'avons rien. Pas un temps illimité, Pierre.
Rien n'est de La Fontaine, mais tout est métamorphosé. C'est un miracle de culture. Les fables, ce sont des confidences qu'il nous dit et qu'on écoute et qu'on lit au-dessus de son épaule. Mon dramaturge préféré, c'est La Fontaine. On retrouve tous les personnages de la Comédia dell'Arte, le renard, c'est Scapin, bon, etc., etc., etc. La Fontaine ne se lit pas, ou plus exactement, La Fontaine se lit par les oreilles, parce que La Fontaine, c'est de la musique. La montagne qui accouche d'une souris, il dit « C'est promettre beaucoup, mais qu'en reste-t-il souvent ?» Alors l'oreille s'attend à un autre alexandrin aussi ample, et alors « C'est promettre beaucoup, mais qu'en reste-t-il souvent ?» Du vent. Ça, c'est tous les secrets de musique de La Fontaine. Bon, par exemple, la cigale y enchantée, la cigale cymbalise, craquette, stridule, se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue, La cigale y enchantée, le vers tout l'été arrive en seconde position, on s'attend à et puis c'est tout l'été, zut.
Il se permet quand même des fantaisies.
Des fantaisies, mais ultra, ultra travaillées. Il y a des fables, on a trouvé des brouillons de La Fontaine entre la version 1 et la dernière version. Il n'y a pas un seul mot, jusqu'à 30 versions, 30 brouillons, et il n'y a pas un seul mot du début à la fin. Et alors, La Fontaine, pour moi, c'est les petits rats dans Cendrillon. Et écoutez ça. Les petites souris de La Fontaine mettent le nez en l'air, montrent un peu la tête, puis rentrent dans leur nid à rats, puis ressortant, font quatre pas, puis enfin se mettent en quête. Prenez le recueil des 12 livres des fables chez vous. Le chêne et le roseau, la dernière fable du premier livre. Essayez, Monique, d'enlever un seul mot. Je dis bien un seul mot. C'est totalement impossible. C'est comme Mozart, vous enlevez une note, tout se détruit. Et voilà. Dernier exemple, si vous voulez bien, comme dans cette fable, justement, quand le chêne est abattu, il y a un travelling. Du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient pont, le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine. La caméra monte, monte. Celui qui de la tête au ciel était voisine, la caméra redescend et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Un dernier mot. Était une fois un homme qui écrivait des vers, qui avait pensé en musique. Ses jours s'écoulèrent comme le cristal d'une source. Pour cette raison, les divinités des eaux, des bois l'appelèrent Jean de La Fontaine. Et ce nom lui restera pour l'hérédité.
Allez, on applaudit. Mais alors, non seulement c'est un grand acteur, mais c'est un cinéaste. On a parlé de caméra, je me dis, mais La Fontaine a-t-il parlé de caméra? Que nenni, c'est vous.
Mais c'est un visionnaire. Là.
Alors, il n'y a probablement pas de questions à poser, là, tout est dit. Hein, voilà. Alors, merci Pierre. Et maintenant, nous allons donner la parole à Jacqueline Dorjex, qui a animé plusieurs émissions. Entre autres, il y a eu une émission sur le patrimoine de la région.
Il y a très longtemps, oui.
Oui, et puis ensuite, émission Talent.
Il y a 15 ans, presque. Oui,
oui. Puis Talent, où là, il s'agissait d'œuvres picturales,
d'expositions, de musées.
Voilà. Alors, vous avez choisi quel livre?
Alors, j'ai choisi le livre de J.B. Pontalis qui s'appelle « Un homme disparaît ».
Vous savez qu'il était à votre place ici. J'ai eu le plaisir et l'honneur de l'interviewer.
Oui, oui. C'est un type charmant, merveilleux.
C'était.
Oui, oui, oui. Il est mort en 2013, donc...
Oui, voilà. Enfin, alors, on vous écoute.
Alors, je vais donc vous parler de Jean-Bertrand Pontalis, qui a écrit beaucoup de livres, mais surtout celui dont je veux vous parler, c'est « Un homme disparaît ». Jean-Bernard Pontalis était psychanalyste, philosophe, écrivain et éditeur. Très actif dans le domaine de la psychanalyse, il a aussi fondé une collection littéraire qui s'appelle « L'un et l'autre ». Tous ses livres intelligents, passionnants et pour tous. Pontalis, passé à la librairie Ombre Blanche, était le contraire d'un pédant. Il était plein d'humour, de bienveillance, avec un esprit pétillant. Son livre, Un homme disparaît, a en exergue une phrase d'un de ses amis, Claude Roy. « Es-tu souvent là où tu es ? Es-tu sûr d'être là ? Et si tu n'es pas là, qui est cet étranger qui parle avec ta voix ? Donc, on comprend dès le début qu'il y a une sorte de brouillage dans les textes. Le début est écrit à la première personne. Un homme rencontre un autre qui monte dans le même autobus. Il fait un signe de tête, un sourire. Au café de l'oubli, « Bonjour, comment ça va ?» Il remonte dans l'autobus. Et là, « Pourquoi ne l'ai-je pas suivi ? J'ignore son nom. J'ignore tout de lui. Qu'est-il devenu ? D'où vient-il ? C'est peut-être un revenant. » Soudain, toute la ville devient un fantôme. Je dois l'inventer, le rêver. C'était quand, déjà ? Pendant des mois, il ne voit plus. Il est plongé dans l'incertitude. Le monde enfoui remonte à la surface. Il pense écrire un livre, l'histoire de Julien Beaune, celui que j'avais dans mon miroir. À partir de là, tout le récit de la vie de Julien Beaune se tisse dans les méandres de la mémoire. L'union fragile de l'éternel et de l'éphémère, thème cher à J.B. Pontalis, qui décline dans beaucoup de ses livres, par exemple « En marche des jours »,« Fenêtre », Le dormeur réveillé, frère du précédent. Toute la vie de Julien Beaune, enfance, avec le père mort très jeune, un homme à femme, comme disait sa mère, elle toujours, toujours triste et lointaine, qui ne reprendra la vie qu'en se remariant. Julien a des amitiés, puis des amours, tout cela très fort, des abandons, des grandes lectures, puis des temps de mélancolie. Il devient médecin, mais tout et tout ça devient un exemple pour une intériorité dans la grille de la mémoire et la grille des rêves éveillés. Éveillés ou non, de doubles, de souvenirs remués, disloqués. Il est une ombre portée à l'affût de chaque vacillement, de chaque surgissement, qui donne à ce récit un poids étrange. Le lecteur est embarqué dans ce qui pourrait paraître ordinaire, mais très vite le trouble par ces fantômes qui se cachent ou qui surgissent dans le récit. À la fin, l'homme de l'autobus réapparaît à la terrasse du café de l'oubli.
À ne pas confondre avec l'homme de l'autobus de Raymond Queneau.
Non, non, c'est un autre.
C'est un autre.
Qui est moins léger.
Voilà.
Voilà, bon. Alors, il écrit « Une fois, j'ai cru entendre ceci. Je ne comprends pas le monde. » Puis, d'un ton plus bas, « Foutu !» Un instant, il cessa de marcher, se retourne. J'ai espéré qu'il allait s'adresser à moi, peut-être me confier son tourment, ou bien alors qu'il allait m'injurier pour l'avoir suivi quelques mètres. Mais il ne dit pas un mot. Ses yeux ne me voyaient pas. Il reprit sa marche. Et cette fois, je suis sûre de l'entendre, ses noms, car il ne criait plus. Il prononçait d'une voix très douce, comme s'il avait, pour quelques secondes, décidé de cesser de combat, de faire trêve, parce qu'il rêvait plus personne dans ce monde, ni ailleurs, à lui adresser sa colère. Oui, d'une voix douce, très faible, l'homme dit « Le temps n'existe pas. » Je crois qu'il me vit à cet instant, reprit sa marche, vociféra de nouveau « Je ne comprends pas le monde !» et disparut au carrefour. Donc voilà, vous voyez ce livre assez complexe.
Redites-nous le titre.
Ce livre s'appelle « L'homme qui disparaît ».« Un homme disparaît », pardon. Voilà. De J.B. Pontalis. Il est en folio.
Oui,
donc
livre de très, poche. C'est bien, vous nous faites
poche,
faire des
très
économies.
Bon marché.
Et puis, merci de nous rappeler J.B. Pontalis, qui était un homme délicieux.
Merveilleux.
Plein d'humour et de bienveillance. Et j'ai eu plaisir. Il est venu deux fois à mon émission. Et c'est vrai que, et voyez, cet ouvrage-là, je ne le connais pas. Vous me donnez envie de le lire. Merci.
Eh bien, à bientôt, merci.
Avez-vous des questions ?
Et effectivement, il donne envie d'être lu.
Oui, tout à fait. Voilà. Merci. Alors, Marie-Pierre Pavlak. Alors, Marie-Pierre Pavlak a son actif plusieurs émissions et je vais en oublier. Ça, je suis sûre que je vais en oublier. Et les dernières, entre autres, sont Les Grandes Heures de la Musique Sacrée.
Voilà, c'est une nouveauté de cette année.
Et Immersion qui
un existe. Un magazine de reportage qui existe depuis, on va dire, 5-6 ans. J'ai oublié moi aussi.
Voilà. Et vous étiez entrée à la radio pour l'émission Talent.
Avec vous, Monique.
Voilà. Alors, qu'allez-vous nous présenter? présenter. Quel est votre coup de cœur ?
Alors, c'est un coup de cœur. C'est un livre que j'ai découvert à la fin de l'été dernier et qui est paru d'ailleurs à ce moment-là, donc un livre assez récent. Il s'agit du dernier roman d'Alexandre Najjar, qui est un écrivain libanais, qui est considéré comme l'un des meilleurs écrivains francophones de sa génération. Alors, il est l'auteur de très nombreux romans historiques. Lui-même est avocat, il est conseiller du ministre libanais de la Culture et il est responsable du supplément francophone L'Orient le Jour, enfin L'Orient littéraire de L'Orient le Jour. Et puis aujourd'hui, eh bien, il navigue entre Beyrouth et Paris. Alors, le nom du livre, eh bien, j'y viens. Il s'agit de Harry et Franz, un roman donc, qui est paru chez Plon, un roman historique. Harry et Franz.
C'est deux noms d'hommes.
Voilà, deux noms d'hommes. Voilà, donc Harry, eh bien Harry, c'est Harry Bor, c'est un comédien de l'entre-deux-guerres que je ne connaissais pas, moi, d'ailleurs, et qui était considéré, je crois, comme l'un des grands de sa profession.
Oui.
Je crois qu'il avait été un magnifique Jean Valjean et puis un Beethoven
moi,
poignant.
Moi, je l'ai connu dans les cahiers du cinéma.
Ah oui. Voilà, mais moi je l'ai découvert grâce à ce livre, une des découvertes de ce livre. Et puis Franz, eh bien c'est l'Avestock. C'est un aumônier militaire allemand qui était aumônier de la mission catholique pendant à Paris sous l'occupation, donc 41-44, et qui avait également une autre mission, c'était celle d'apporter un soutien moral et spirituel aux détenus français qui étaient dans les prisons du Cherche-Midi, à Fresnes, ou bien encore à la Santé. Et puis, il allait même beaucoup plus loin, parce qu'il accompagnait dans leurs derniers instants tous les condamnés à mort qui étaient fusillés au Mont Valérien. Et d'ailleurs, après la guerre, hein, puisque ce sont deux personnages vraiment bien réels, après la guerre, l'Abestock, il a été surnommé l'aumônier de l'enfer. Et en 2009, depuis 2009, eh bien, il y a un procès en béatification à son sujet qui a été ouvert. Donc, je reviens au livre.
Béatification, pourquoi en fait ?
Parce que c'est injuste, nous allons le voir. Donc, alors, après le nom, le sujet. Harry Bor, donc, est emprisonné en 1942 et puis il est torturé par les nazis à la prison du Cherche-Midi parce qu'il était suspecté tout simplement d'avoir des ascendances juives et il avait été arrêté en même temps que sa femme qui, elle, était musulmane et elle aussi, elle a été arrêtée. Et pendant ces 4 mois d'incarcération, il a été soutenu, réconforté par l'Abestock. Et cela, on le sait, parce que cet aumônier allemand tenait un journal. Et c'est à la date du 30 juin 1942, eh bien, il dit qu'il a rencontré, il note qu'il a rencontré l'acteur de cinéma Harry Bor. Donc, à partir de ce fait véridique, Alexandre Najjar, qui s'intéressait à Harry Bor parce que c'était l'un des comédiens préférés de son père, donc à partir de ces faits véridiques, eh bien, il construit son roman. Il imagine la rencontre entre ces deux hommes, Harry Bor, qui est la descente aux enfers du comédien, donc qui est dans les geôles nazis et qui est torturé, et puis ce prêtre qui vient lui rendre visite et qui se bat contre l'administration nazie, qu'il compare à Satan et qu'il défie au quotidien, et il essaye de sauver l'acteur de la mort. Il y réussira. Je vous le dis parce que bon, c'est un récit véridique, donc il n'y a pas de suspense. Donc Harry Bor arrivera à sortir des mains de la Gestapo, mais il ne se remettra jamais des conditions de sa détention et il mourra moins d'un an plus tard, en 1943. Alors, le roman s'ouvre lors de la manifestation estudiantine parisienne du 11 novembre 1940, qui était déjà le premier acte de résistance et qui fut sévèrement réprimé par les nazis. Alors, à ce moment-là, je vous ai dit que c'était un roman, et pas tout à fait un récit, enfin un roman à partir de février. Donc là, il introduit un personnage de fiction, qui est une jeune étudiante, Émilie, qui va l'aider à constituer un dossier solide pour libérer justement Harry Bor. Et si vous voulez, Monique, si vous me permettez, je vais vous lire quelques pages. Alors voyons, je retrouve la page. Alors nous sommes pratiquement au début du livre. Émilie pose sa tasse sur sa soucoupe, se lève, arpente la pièce en se tordant nerveusement les mains. Elle est en présence de l'Abestock. Hein. « Qu'as-tu à tourner en rond comme ça ?» lui dis-je, irritée. « Calme-toi, je t'en prie. Tu dois sauver Harry Bor, » articula-t-elle d'un ton impérieux. « Mais comment ? Tu dois sauver Harry Bor. » Elle a répété la phrase en appuyant sur le verbe « devoir » et en me foudroyant du regard comme si j'étais responsable du sort réservé aux comédiens. Mais ce n'est pas mon rôle, je ne suis pas avocat que je sache. La justice n'a rien à voir puisque les bourreaux ne le jugent même pas. C'est une question de principe. Si tu es du bon côté, prouve-le. Alors je saute quelques passages. Et donc l'Abestock reprend la parole. « L'issue de mon intervention est incertaine. » Je le sais pour avoir essuyé par le passé des échecs douloureux.
Ainsi, j'ai eu beau demander aux autorités militaires de gracier Gabriel Péri, député communiste et membre notoire du comité central du PCF, il a finalement été fusillé. J'ai appris à encaisser les coups et les déceptions en m'en remettant à Dieu. J'ai perdu mes illusions, mais gardé la foi de celui qui peut déplacer les montagnes. Voilà donc, vous avez un aperçu de la profonde humanité qui traverse ce roman qui est écrit à la première personne. Il est rédigé au présent, vous l'avez peut-être entendu, sans effet de style, dans une langue très fluide, alerte. C'est un Libanais qui a écrit... Pardon, voilà, je suis enrouée. Et la langue est très, 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 très concise. Et donc, les dialogues illustrent, bien sûr, éclairent les personnalités respectives de l'abbé Stock et de Harry Bor. Alors, ce qui m'a passionnée dans ce livre, eh bien, justement, c'est le visage de cet abbé Stock. Je ne le connaissais pas. Je l'ignorais, j'ignorais totalement son existence, l'existence de ce juste. Et c'est l'un des mérites de ce livre, de faire connaître cet homme qui n'a rien à voir avec les nazis, mais qui pour autant n'en est pas moins allemand et qui est pétri, qui aime son pays, qui aime sa culture, sa belle culture allemande. D'ailleurs, voilà ce qu'Alexandre Najar lui fait dire. Toutes ces théories sur la supériorité aryenne, je voudrais tant les dénoncer haut et fort, mais je suis hélas prisonnier d'un système embarqué à bord d'un navire que je ne contrôle pas et qui dérive. Suis-je complice pour autant ? J'agis selon ma conscience en gardant à l'esprit cette recommandation du Christ. Soyez donc prudents comme des serpents et purs comme des colombes. Voilà, et si j'ai deux secondes encore, autre point intéressant, Monique, c'est que ce livre ressuscite également tout ce monde parisien de l'occupation, notamment le monde artistique et littéraire. Et puis, il pose concrètement le problème du statut de l'artiste en période de guerre et de la dissociation ou non de la carrière et des événements. Il montre également le changement des hommes dans ces difficiles périodes, en soulignant bien sûr la diversité et la complexité des comportements français, en l'occurrence, puisqu'il s'agit du second conflit mondial, qui vont de l'audace et du courage à la simple et humaine lâcheté, de la compromission à la collaboration la plus active. Enfin, vous l'avez compris, c'est un magnifique roman, un écrit de vie dans lequel un homme qui ne cesse de s'appuyer sur l'Évangile, sans jamais perdre sa foi en l'homme, pêche avec patience la lumière perdue dans le puits de l'ombre. Et là, je reprends une phrase, une citation de Neruda, qui est un exergue de ce livre.
Merci. On va redire peut-être le titre et l'auteur.
Alors, il s'agit de Harry et France, un livre d'Alexandre Najar qui est paru à la fin de l'été dernier aux éditions Plomb.
Vous voyez, et là j'essayais désespérément, ma mémoire me faisant défaut, de retrouver le nom de ce poète qui n'a pas rencontré ce prêtre, ce poète juif qui est mort dans un camp de concentration. Peut-être vous en souvenez-vous ?
Non, je crois que...
Qui est connu en plus, mais là tout d'un coup...
Nous allons faire des recherches.
Voilà, nous le trouverons plus tard, à la prochaine émission. Merci Marie-Pierre. Alors, Sylvie ?
Alors, l'exercice va être difficile parce que...
Vous passez près des gens brillants, mais vous le saurez tout le temps.
Exactement. Et puis, ce n'est pas du tout le même style de livre, hein, je tiens à le préciser.
Ah, alors, tout était autorisé, y compris les bandes dessinées. Mais là, ce n'est pas une bande dessinée.
Non, ce n'est pas une bande dessinée. J'avais hésité, peut-être la prochaine fois. Non, là, c'est un thriller fantastique avec quelques clins d'œil à Stephen King. Les coins sombres, les champs de maïs, enfin bon, j'aime bien. C'est un roman de Maxime Chattam que vous trouverez aux éditions Albin Michel, Le Signal. Donc j'ai été séduite...
La couverture est noire.
Voilà, déjà, exactement, hein. J'y viens. La couverture est magnifique. J'ai été séduite par cette couverture. Une maison graffée argent se dessine sur fond noir, façon l'hôtel dans Shining. Nuit sombre et maléfique. Les pages, comme vous pouvez le voir, sont encadrées de noir, comme pour en faire part de décès. Un peu comme si le mal grignotait le livre. Le ton est donné. Un plus qui est appréciable dans ce roman, c'est que dès qu'on ouvre la page, on a le plan de la ville qui permet de se situer et donc, de se balader dans les quartiers, parce que sinon c'est vrai que souvent on se perd suivant les auteurs.
On n'a pas besoin de boussole. Donc.
Non, tout d'accord. À fait. Là c'est très bien, on est situé absolument. Voilà. Ce qui est aussi d'intéressant, c'est que l'auteur conseille d'écouter quelques musiques qui peuvent accompagner la lecture. Bon, il se trouve que moi j'étais à la campagne, il n'y avait rien pour écouter, donc tant pis, il ne me reste plus qu'à relire les 740 pages qui vous attendent.
Mais... 740 pages, vous pouvez bien le mentionner. C'est bon pour les vacances.
Oui, ou alors tout un week-end, hein, vous... mais oui. Vous ne faites rien d'autre. quant à la révélation finale, vous l'aurez que dans les dernières pages.
Oui, vous ne nous en parlerez pas, évidemment.
Non, du tout, on ne peut pas. Donc, la famille Spencer s'installe à Maigon Fall, une charmante petite ville des États-Unis, un havre de paix pour se retrouver, quitter la vie trépidante new-yorkaise. C'est très chouette. La ville est idyllique, bordée par l'océan, la forêt, les collines, dominée par le mont Wendy, un très joli nom, avec une énorme antenne au sommet, parce que grâce à elle, le petit village qui est encaissé peut capter tout ce que Internet, smartphone, radio, télévision.
Wendy, c'est la copine de Peter Pan, non ?
C'est la copine de Peter Pan qui est super gentille. On est bien d'accord. Elle est adorable. L'histoire de la cité est un peu lourde. Massacre des Indiens par les premiers colons, procès des sorcières de Salem, un ou deux serial killers. Mais enfin, c'était il y a longtemps, donc tout va bien.
Oui, on a tourné la page.
Voilà, exactement. Comme dans toutes les petites villes, il y a les bons et les méchants. Le chef de la police, borné et incompétent, le jeune flic qui vient d'arriver, curieux à l'écoute, les voisins, discrets, connaissant les secrets de la ville, le bad boy, odieux et malfaisant, les monstres existent vraiment. Mais tout est parfait dans le meilleur des mondes. Et si vous voulez mon avis, surtout ne vous arrêtez pas, passez votre chemin. Faisons connaissance avec la famille. Une famille sympa, aimante, généreuse, extrêmement attachante. Olivia, cartésienne, star de la télé, heureuse de renouer avec ses débuts. Chroniqueuse à la radio locale. Une vraie lionne, au grand cœur, lorsqu'il s'agit de défendre sa tribu. Tom, le mari, en panne d'inspiration, recherche des idées pour écrire une pièce de théâtre. Il enquête sur l'histoire de la maison. Les deux ados, géniaux, 13 ans, intègrent une bande de copains dans le style de la bande d'amis de Stranger Things, une série fantastique, ou bien si vous préférez, le Club des 5 revisité. Des jeunes formidables qui ont le sens de la solidarité, du courage et de l'honneur. Et là, c'est une véritable ode à l'amitié. Vraiment, ils sont magnifiques. Et
oui, puis, surtout dans l'adversité que l'on va connaître.
Que vous allez connaître en ouvrant le livre. Et il y a Zoé, la petite sœur de 2 ans, Smog, le labrador, la babysitter, une perle. Vraiment, tout va bien dans le meilleur des mondes. Maintenant que vous avez un aperçu des décors et des personnages, je vous raconte un tout petit peu. Dès le prologue, on est mis dans le bain. Un homme roule sur la route, il vient de commettre une action pas nette, on ne sait pas laquelle. Mort curieuse avec l'apparition d'une femme sur sa banquette. On n'a pas le temps de réfléchir que l'on assiste à la disparition horrible d'une babysitter dans une maison où des voix terrifiantes se font entendre. Ouf, on souffle à l'installation de la famille Spencer dans sa nouvelle maison. Tout est paisible, sauf que le chien a peur de la forêt. Les garçons sont poursuivis par quelque chose dans les champs. Zoé fait des cauchemars toutes les nuits. Tom entend la maison grincer. Des cris terrifiants s'invitent sur les ondes de la radio. Quelques morts glauques macabres. Super. Les protagonistes assistent à la genèse d'événements curieux, inexpliqués. Ils essaient de se raisonner, alors il ferait mieux de plier bagages et de partir le plus vite possible. Personne n'est épargné. Nous, on commence à comprendre. Enfin, pas trop quand même. Hein. Moi, j'ai apprécié que Maxime Chattam distille cette ambiance d'épouvante, goutte à goutte, avec des pics d'abomination et en avoir le souffle coupé et des frissons. Les personnages remettent en cause toutes leurs certitudes. Les intrigues se chevauchent. Celles vues par les adolescents, confrontés immédiatement à l'épouvante. Ils le vivent, ils y croient, ils tentent de trouver des stratégies pour combattre le mal. Celle vue par Tom, le père de famille, qui découvre que sa maison est peut-être hantée, il se refuse à l'admettre. Enfin, dans le doute, il déplace sa fille dans une autre chambre. Pourquoi les événements se déclenchent à l'arrivée de cette famille si sympa ? L'intrigue nous amène sur des chemins de traverse. On se retrouve dans une impasse et puis hop là, un cri terrifiant, glaçant. Mais c'est peut-être pas une impasse. Les situations sont à faire dresser les cheveux sur la tête. Dans le signal, Maxime Chattam alterne temps calme et frisson. On respire à peine. L'histoire est incroyable, inimaginable. On s'identifie au personnage, on traverse le champ de maïs avec les adolescents, on fuit à perdre haleine.
Maïs au gène.
Absolument. Mais nous sommes aux États-Unis, alors attention. On est avec Olivia dans le couloir où un souffle glacé lui caresse la nuque. Avec Zoé qui hurle dans son langage d'enfant « Clignote, clignote !» Ne serait-ce pas plutôt grignote ? Des rats ? Autre chose ? Suspense. Lecteur sensible, s'abstenir. Des cadavres bien morts, bien décrits, terribles. Je vous conseille de le lire le soir. Bien installé dans un fauteuil, dans le salon d'une maison de campagne isolée. Avec
un orage qui gronde.
Presque seule lumière, celle éclairant votre roman. Le moindre grincement vous interpellera et lors d'une de vos pauses, vous appuierez sur tous les interrupteurs. Et si au fond du couloir assombri,
Il y avait vraiment quelque chose. Vous ne verrez plus jamais les pièces sombres de votre maison avec le même regard. Melgan Fall, une petite villa à éviter. Le Signal, un pavé que, un, vous ne pouvez pas quitter. Deux, vous ne vous enlacez pas. Trois, vous tremblez. Lyon, deux jours. Véridique. Ah oui. Roman addictif, haletant. Dénouement que vous ne pouviez prévoir. Le Silence. Le Signal, pardon. Ambiance pesante et glaciale. Imagination débordante. Un régal. Difficile de vous donner plus d'indications. Tout
non,
est dans le jeu de pistes.
On ne peut pas.
Exactement.
On ne peut pas. Mais vous dites qu'il se passe quelque chose dans la radio ? Est-ce que c'est ici on peut craindre alors, des cris
si c'est à radio présent, je vous conseille, il faut fuir immédiatement. Voilà, Maxime Chantin brouille toutes les pistes. Car comme le murmure l'un des personnages, l'homme, à force de vouloir se prendre pour Dieu, a peut-être ouvert la porte des enfers. Alors, je vous laisse le lire.
Redites-nous le titre et l'auteur.
Le Signal de Maxime Chantin, aux éditions
Albin Michel.
Albin Michel.
D'accord. Merci.
Un régal, merci.
Merci. Bon, alors là, vous avez... Thibault, merci d'être parmi nous. Alors,
c'est un plaisir
bon,
et un honneur.
Nous avons notre directeur qui vient... Directeur depuis déjà 2 ans.
Un peu plus de 2 ans maintenant.
Un peu plus de 2 ans.
Ça.
Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que vous aimez la lecture, mais vous aimez aussi plein de choses. Vous nous allez peut-être nous le dire. On a remarqué votre dynamisme, votre originalité, votre imagination, des idées...
Oh là là, n'en jetez plus.
Ouais, non, je n'en jetez plus, la Monique. Cour est pleine. Bon, alors, la lecture, oui.
Oui, la lecture, tout le temps. Oui,
oui,
depuis toujours.
Oui. Oui, on passera sur le piano, on n'a pas de piano ici.
Non,
oui, c'est dommage.
Ce n'est pas une bonne
dommage.
Idée.
Bon, et puis je sais que vous allez nous amener sur un terrain assez inattendu.
Ah oui, parce que je me suis dit, est-ce que je viens avec Belle du Seigneur ? Est-ce que je viens avec Phèdre de Racine ? Ou est-ce que je viens
Mauriac,
avec des aphorismes d'Hofmannsthal ou de Mauriac ? Mais c'est pas drôle tout ça.
Et là, alors là, c'est inattendu. Ça, ça va étonner nos auditeurs.
En fait,
mais qui n'a pas lu cet homme ?
Je suis venu avec un héritage.
Oui.
En fait, mon père m'a légué 2 choses, qui étaient ces 2 livres de chevet. C'est la Bible et San Antonio. Il y avait tout le temps sur sa table de nuit, bon, un bouquin d'histoire, mais toujours un San Antonio et la Bible. Et donc, il m'a légué ça. Voilà, la foi, je la lui dois. Et puis, San Antonio aussi, je lui dois.
Oui,
et donc, je suis venu avec un San Antonio.
Oui, avec des expressions savoureuses très souvent. Hein. Et des titres.
Mais en fait, je suis venu avec un San Antonio, parce que j'ai pris celui que j'avais à la radio. Hein, je ne vous cache pas que j'ai aussi un San Antonio à la radio. Parce qu'en fait, le titre, on s'en fout. L'histoire, on s'en fout. Ce n'est pas ça le sujet. Celui que là, j'en ai la main, s'appelle Champagne pour tout le monde. Ça n'a aucun intérêt, parce qu'en général, le contenu du livre n'a aucun rapport avec le titre,
oui.
De même que les titres des chapitres, en général, n'ont aucun rapport avec le contenu des chapitres.
Donc, c'est là-dedans qu'il y a Berrurier, non ?
Absolument.
Oui,
le fameux Berrurier qui a donné naissance au Berrurier noir. Hein. Il y a un héritage très, très direct. Berrurier, c'est un des héros de San Antonio. Mais en fait, je voulais peut-être vous faire redécouvrir San Antonio parce que c'est d'abord un poète.
Ah.
C'est d'abord un poète. Quand je vous lis, là, c'est une aventure qui est dans Rome, « Ville sublime, ville ouverte ». Sang et soleil, ruines et cris, poussière d'or des siècles à jamais incrustés sur les rives du Tibre. Il vous prend au trip. Quand il a décidé d'être poète, il est poète. Mais c'est aussi, effectivement, vous l'avez dit, c'est une langue. Voilà, c'est une langue à lui qui est truculente. Il invente du vocabulaire, il invente des mots. Et puis, bien sûr, c'est le roi de l'argot.
Oui, c'est fort d'arriver à être dans tous les genres de littérature, finalement.
Alors, oui, on va dire qu'il frôle un peu tous les genres. Ça reste quand même... passablement grossier, oui. Parfois, il faut bien reconnaître les choses. Et quand il manie effectivement une langue qui est très truculente, là, un autre petit extrait, on passe par des chicanes et la trouillance me biche de me casser le pif sur mes petits galopins. Donc effectivement, il y a un mot sur deux, ma première lecture, je me souviens, j'avais peut-être 15 ans quand il m'a fait lire mon premier San Antonio, je ne comprenais rien.
Oui.
Parce qu'effectivement, il y a plein de mots qui sont d'un vocabulaire.
Décoder.
Oui, qui est un vrai vocabulaire. Et un vocabulaire qu'on a perdu un peu aujourd'hui, qui est le vocabulaire de films avec Blier ou d'autres, ou, voilà, qui a un petit peu disparu. Mais qu'il est dommage, justement, de perdre.
Oui.
Parce que
est-ce que c'est lui qui disait, en parlant de quelqu'un qui allait lui provoquer un accident, on dit « je vais lui faire un costume en sapin ».
c'est très possible, ce serait assez de lui. Voilà, c'est effectivement un langage qui est extrêmement imagé, extrêmement présent. Ce n'est pas du tout, enfin, On pourrait dire que c'est un petit peu vulgaire, mais c'est pas du tout. On tombe pas. Ce n'est pas SAS.
Attention. Je veux absolument. Il faut faire la différence entre vulgaire et grossier.
Et absolument. Pour moi, SAS c'est grossier et San Antonio c'est fleuri.
Oui. Voilà. Alors moi je dirais SOS c'est vulgaire et San Antonio c'est grossier.
Ah, peut-être, tiens. Oh, grossier, je ne sais pas.
Grossier, c'est le langage. C'est pas vulgaire, hein, c'est très différent, à mon avis. Bon, on ne va pas faire une émission là-dessus, la prochaine fois.
Je vous lis un autre petit extrait, parce que c'est l'ouverture du livre que je trouve magnifique. C'est deux petits paragraphes. La bagnole possédait une carrosserie italienne. La fille aussi, probablement. L'une, comme l'autre, mobilisait les regards, mais les deux réunis ténucléaient, littéralement. La seconde avait quelque peine à ouvrir la première. Je me précipitais en regrettant que ce ne fût pas la deuxième qui fût à ouvrir. Mais qui savait ?
Voilà. Alors, écoutez, moi je trouve que ça... Après le livre de Sylvie Ostry, votre livre Thibaud d'Hauteville, je trouve que finalement... Parce qu'en fait, on ne pleure pas dans ces livres.
Ah, pas du tout.
Et on
rigole beaucoup.
On n'a pas d'anxiété.
Je rigole, mais à haute voix, je rigole.
Oui,
le coup, c'est un livre lié en société, quand vous êtes dans le salon
le soir,
etc. Ah
oui, il y a des expressions qui sont pas mal, oui.
Voilà, c'est...
Et on peut le lire presque dans la pénombre sans aucun risque.
Sans aucun risque, là, vraiment.
Le signal, c'est autre chose. C'est une atmosphère plus lourde.
Oui, voilà. C'est certain.
Il faut s'y préparer.
C'est certain.
Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions à poser à Thibaud ?
Mon Dieu, j'espère pas.
Sur.
C'est votre roman préféré de son entre.
C'est pas mon roman préféré, non, parce que c'est pas un roman que j'aime.
Oui.
Voilà.
C'est l'ensemble.
C'est l'ensemble de l'œuvre que je trouve poilante.
Vous n'avez pas un livre chéri, quoi.
Ah, mais sinon, ça aurait été Phèdre, je pense. Mais...
Oui, oui.
Voilà, si t'es pour l'amour de la langue
là,
et pour...
Là, c'est le grand écart. C'est...
Oui, mais je...
Mais ce qui veut dire que c'est très intéressant. On peut aimer
absolument.
Dieu merci, oui.
Divers genres littéraires.
Oui, tout à fait.
Il y a la place pour tous. Je crois que c'est ça.
Oui, absolument.
Moi, ça me donne envie, effectivement, de m'y replonger, parce que je l'avais lu... Très, très jeune.
Tu parles de Phèdre ou de San Antonio ?
Phèdre et San Antonio. Phèdre, j'ai déjà relu. San Antonio, non, parce que je l'ai lu très jeune. C'est-à-dire que j'empruntais, sans le dire à mes parents, les livres de leur bibliothèque, donc évidemment. Et San Antonio, c'est vrai que ça ne m'avait absolument pas parlé et je n'avais strictement rien compris. Donc, c'est vrai que je suis restée sur un a priori négatif. Mais là, effectivement, avec la poésie, que vous venez de présenter, monsieur le directeur, vraiment, ça donne envie de s'y replonger et d'avoir ce langage, effectivement, que l'on n'entend plus, que l'on retrouve dans les films, effectivement, d'Audiard.
De son Finger.
Voilà, tout à fait. Donc, c'est vrai que je suis curieuse de m'y replonger et je vous tiens au courant.
Et un point commun entre Phèdre et San Antonio, c'est qu'il mérite d'être lu à haute voix.
Absolument.
Oui,
c'est très juste.
Alors, là, ma question, est-ce que c'est vraiment le nom de l'auteur, San Antonio ?
Non, il s'appelle Frédéric Dard.
Mais voilà.
Voilà, c'est ça.
Mais bien sûr, mais c'est bien sûr.
Mais c'est voilà. Bien sûr.
Bon, alors, pour nos auditeurs, quand ils ont un petit coup de spleen dans ces périodes un peu grises, quoique aujourd'hui, nous avons un grand beau temps, peut-être en effet, un San Antonio ferait du bien.
Oui.
Voilà, osons.
Merci.
Voilà.
Merci.
Merci
beaucoup.
Alors, et maintenant, nous allons donner la parole à Éric Dupré, qui va clore cette émission.
Oui.
Et Eric.
Grand silence.
Eric, que vais-je dire sur Eric ? Eric, il fait. Je crois qu'il a fait plusieurs émissions lui aussi. Je cherche ce qu'il fait actuellement. Peut-être qu'il s'il pouvait m'aider, ça serait sympathique.
Ouais, je peux vous aider.
Oui.
Non, je produis, j'anime deux émissions actuellement dans la grille de Radio Présence. Il y a une émission consacrée à l'actualité de la musique classique et lyrique à Toulouse et dans la région qui s'intitule Mélomanie. Et puis, j'anime aussi une émission qui s'appelle Métropole et vous, qui est un partenariat avec Toulouse Métropole, où on parle de l'actualité des grands projets, des grands sujets de la métropole toulousaine. Voilà.
Et nous avons beaucoup de chance de vous avoir parce que une grande culture, allez ça y est là je vais passer la brosse à relire mais c'est vraiment à
non,
relire,
c'est surtout que
il connaît beaucoup de choses Eric et en plus il a une mémoire phénoménale, enfin c'est ma mémoire moi qui la mienne qui s'en va un petit peu. Alors Eric, vous avez choisi quel livre?
Alors, si j'ai bien compris, vous veniez de parler de Frédéric Dard, vous disiez que c'était l'auteur à lire, les livres à lire pour se remonter le moral. Eh bien, moi, je ne vais pas vous remonter le moral parce que je viens vous parler de La route de Cormac McCarthy.
Ah, très bon.
Qui n'est pas un livre profondément drôle.
Non, c'est vrai, mais très beau.
Il faut vraiment chercher, là, pour, oui, hein, vous voyez, il faut avoir un esprit quand même particulièrement bien tourné.
Oui, ouais. C'est vrai que c'est un très beau livre. Est-ce qu'on a passé un film à partir de...
Oui, il y a un film qui a été fait d'ailleurs très peu de temps après la sortie.
Oui.
Le livre, je crois, est sorti en 2007 aux États-Unis ou 2006. 2008 en France, oui. Et il y a eu une adaptation cinématographique en 2009 avec Viggo Mortensen.
Et le film était réussi d'ailleurs.
Mais oppressant.
Oui, oppressant. Et le bouquin est oppressant aussi.
Oui, alors le film s'écarte un petit peu par moment du roman, ce qui m'avait un petit dérangé pour certains aspects. Mais le film était intéressant, et puis très bien interprété.
Alors, l'histoire, en gros, pour appâter nos auditeurs qui ne le connaîtraient pas.
Eh bien, ça commence sur une bien triste vision, parce qu'en fait, ça recommence sur quelque chose qui ressemble fort à la fin du monde. C'est-à-dire que le monde est détruit. Le monde est détruit. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. On peut imaginer beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a eu une catastrophe climatique? Est-ce qu'il y a eu...
des bombes atomiques.
Oui, est-ce qu'il y a eu une guerre nucléaire sur l'ensemble de la planète? Toujours est-il que toute la nature est détruite. Ce ne sont plus que des cendres. Les villes sont détruites, en ruine. Le ciel est obscurci. Enfin, on est dans une espèce de grisaille permanente. Il fait très froid. C'est vraiment un paysage d'hiver nucléaire tel qu'on pourrait l'imaginer. Si tant est que la chose arrivait, ce que je ne souhaite pas, bien sûr.
Oui. Tel que vous le présentez, j'avais oublié, mais T.C. Boyle, un auteur américain qui est venu ici, présente un livre dans lequel il y a exactement ce paysage avec des pluies acides. C'est un peu prémonitoire. Je crains que ce soit prémonitoire. Non, mais on parle des problèmes du climat de plus en plus, hein.
Oui, alors là, concernant la route,
on
peut imaginer beaucoup de choses, on ne sait pas ce qui s'est passé. Toujours est-il que le monde est détruit, que la faune et la flore sont détruites.
On en parle aussi.
Survivent quelques êtres humains. Bon, on comprend que ça se passe évidemment aux États-Unis, on ne sait pas trop exactement. Plutôt vers le nord, puisque les deux personnages principaux du livre vont partir sur la route vers le sud. Donc, on se retrouve en présence d'un père et de son enfant. Alors, la mère, on la voit un petit peu au début du roman, enfin, on la devine au début du roman, parce qu'elle accouche au moment où on commence le livre, et l'enfant naît dans ce monde détruit. Lui, il n'a pas de référence du monde d'avant. Et très rapidement, la mère va disparaître, parce que, enfin moi c'est ce que j'en ai déduit, elle n'arrive pas à affronter cette situation, qui évidemment est terrible parce qu'il n'y a plus d'espoir.
Et elle lâche prise.
Les humains, au bout d'un moment, ils commencent, vous pouvez l'imaginer, comme il n'y a plus rien à manger, vous devinez ce qui se passe. Et je pense que si ça arrivait, ça se passerait comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont recours au cannibalisme pour survivre. Donc ils se chassent entre eux. Voilà. Et donc,
il faut bien choisir les morceaux, si j'ose dire.
Oui, alors ça, c'est pas tout à fait précisé, ça.
C'est pas précisé, je crois qu'ils ne font pas la fine bouche.
Non, ils ne font pas la bouche.
Non.
Mais c'est un monde absolument épouvantable, effroyable. Effroyable, sombre, gris, froid, parce qu'il fait très froid en plus.
Ouais.
Plus de soleil, on voit plus le soleil.
C'est un monde de cendres.
Quand ils se déplacent dans la nature, les arbres, tout ça, ce ne sont plus que des cendres ou des squelettes, des squelettes d'arbres, tout est noir et gris, le ciel est gris. Alors je crois qu'il y a quelques pluies, parce qu'heureusement, il y a encore de la pluie pour pouvoir s'abreuver. Mais voilà, donc ils sont en permanence trempés, transis, mourant de faim, malades aussi, parce qu'ils mangent un peu tout et n'importe quoi, donc on voit les conséquences. Et alors ce qui est très émouvant, c'est qu'on voit la relation entre ce père et ce fils, et ce père qui va tout faire pour le protéger, lui permettre de survivre, y compris moralement, pas seulement physiquement, y compris moralement, et le préserver évidemment des hordes qui rôdent un peu partout à la recherche de chair fraîche. Il y a quelques épisodes particulièrement effroyables. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, parce qu'apparemment, Marie-Pierre et Sylvie l'ont lu. C'est quand ils arrivent dans une maison, ils vont fouiner dans toutes les maisons en ruine qu'ils trouvent en espérant y trouver quelque chose, des conserves qui pourraient rester pour manger. Et dans une maison, le père va descendre à la cave et il va tomber sur des gens qui sont emprisonnés là. Et en fait, on comprend que cette cave a été transformée en garde-manger de viande humaine sur pied.
Oui, on atteint l'horreur.
Oui,
vraiment.
Voilà. Et donc lui, il a pris la décision d'aller vers le sud, à pied bien entendu, avec son fils, en évitant le plus possible les mauvaises rencontres, parce qu'il pense que là-bas, peut-être qu'il fait un peu moins froid, peut-être que subsistent quelques communautés humaines qui n'ont pas perdu complètement leur humanité. Donc c'est cette quête aussi. Hein. Et ce qui, moi, m'avait beaucoup ému, c'est la... Je trouve que ça réhabilite complètement le rôle du père, qui était quand même pas mal mis à mal dans nos sociétés occidentales durant les dernières décennies. La mère, au début, les abandonne. Elle part dans la nuit, on la voit partir dans la nuit, on suppose qu'elle va se suicider, en tout cas, bon, c'est ce qu'on comprend. Donc il se retrouve seul. Et lui, sa seule raison de vivre, c'est cet enfant.
C'est cet enfant.
Bon, il y a différents épisodes. Hein. Les seules petites lumières qu'il y a dans le roman avant la fin, c'est justement la relation qu'il peut y avoir entre eux. C'est la seule lumière qu'on y trouve. Qui, bon, je ne sais pas ce que vous avez pensé, parce que là, je m'adresse
il n'y a que des femmes autour de la table.
Qu'est-ce que vous avez pensé du personnage masculin et du personnage, du premier personnage féminin qu'on voit, qui est la mère?
Ah, alors, bonne question.
Alors, la lecture est un peu lointaine.
Oui, moi aussi, mais le souvenir que j'ai de
elle
la maman...
Elle est aussi lointaine pour moi.
Hein. C'est qu'effectivement, elle n'a plus la force morale et d'amour d'affronter une situation où ils sont... plus que dans l'incertitude, ça fait déjà 2-3 ans qu'ils vivent dans une société qui n'existe plus. Ils sont de plus en plus assaillis par des gens qui meurent de faim à l'extérieur. Elle sent ce danger arriver de plus en plus vers sa famille et son enfant. Et elle n'a plus la force d'être constamment vigilante et de le protéger. Elle déclare forfait. Voilà, reste le papa. Et son fils, et effectivement, elle a une relation sublime, enfin pour moi, qui ce papa lui transmet de l'amour, des valeurs. Il ne critique pas la maman qui est partie.
Jamais.
Il garde intacte l'image de la mère.
Est-ce qu'elle n'a pas sombré dans une forme de folie aussi?
Parce qu'il y a de ça.
C'est-à-dire que c'est pas évident de garder de l'espérance dans un monde où on doit survivre et où il y a pas vraiment d'espérance, hein. Voilà, parce que vraiment...
Mais c'est vouloir prolonger tout de même,
voilà.
Transmettre, prolonger.
Voilà, et
c'est un roman sur l'affiliation.
Se prolonger à travers son enfant.
Complètement, et il lui offre, comment dire, même si la nature est complètement désagrégée, c'est des troncs noirs, squelettiques, calcinés, il lui offre des milliards de fleurs, des bouquets de fleurs, des étincelles, des feux d'artifice. Enfin, moi, je trouve ce livre très positif, mais je suis une des rares à le trouver positif.
Alors, moi, pas tout à fait. Il y a énormément de références bibliques dans le livre, évidemment. C'est écrit par un Américain. Il faut savoir que Cormac McCarthy, quand il écrit ce livre, il est très âgé. Déjà, il a 75 ans. Un petit peu moins, 73, 74. Mais il a été père sur le tard, McCarthy. Il a été père sur le tard. Et je crois que ça a beaucoup joué lorsqu'il a écrit ce livre. La relation entre l'enfant et le père emprunte sans doute beaucoup à ce que lui veut transmettre à son jeune fils. Je pense qu'il était père à 65 ans ou quelque chose comme ça. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Bon, McCarthy, c'est un écrivain, immense écrivain, qui, comme son compatriote Philippe Ross, n'aura certainement pas le prix Nobel de littérature parce que, bon, bah, c'est comme ça.
Il a les lecteurs.
Il a le prix Pulitzer, ce qui est l'équivalent de Goncourt hein, aux États-Unis.
Oui. Encore quelques minutes.
Encore quelques minutes. Oui, alors ça se termine. Bon, il y a cet occasion, il y a un aspect initiatique aussi, vraiment.
Oui, c'est ça.
Non, il croise un vieil homme sur une route qui avance tout seul, on ne sait pas trop d'où il sort, on ne sait pas comment il survit d'ailleurs, et qui s'appelle Ellie.
Oui, mais c'est une fable.
Par hasard, il s'appelle Ellie. Et il voit en l'enfant, je ne sais pas si vous vous rappelez, il l'appelle, mais donc vous êtes en train de marcher sur la route avec le dernier Dieu. Il appelle le dernier Dieu. Alors il y a des références à la Bible, à l'Évangile, au prophète de l'Ancien Testament, tout ça. Et ça se termine, bon, le père va mourir, hein, il va mourir d'épuisement, de maladie, et le fils va être recueilli à la fin, ça se passe sur une plage, son père vient de mourir, il est enterré dans le sable, et par un couple qui les suivait de loin, il le soupçonne, l'enfant a vu l'enfant du couple une fois, il a dit à son père, il dit, non, méfions-nous, qu'est-ce que c'est que ça, avançons. Donc il va être recueilli par ce couple, qui survit, il va leur demander tout de suite s'ils ne mangent pas les gens. Il dit non, nous on mange pas les gens. Et ça se termine là-dessus. Voilà. Alors effectivement, là on peut y voir...
On retrouve un peu d'humanité quand même. Ouais.
Dans le film, ce qui se passe à la fin, il y a cette scène, mais en plus on voit un oiseau dans le ciel, ce qui n'est pas dans le roman. C'est-à-dire que le cinéaste en rajoute une petite couche dans l'espoir. Mmh. Ah, donc la faune n'a pas complètement disparu. Alors, on peut voir ça comme un ange.
J'aime bien terminer sur une
note d'espoir.
Un roman de possible. Mais...
Voilà.
C'est vraiment un roman magnifique qu'on peut lire et relire.
Alors, répétez pour nos auditeurs le titre et le nom de l'auteur.
Alors c'est très simple, le titre c'est La route, The Road. Et l'auteur c'est Cormac McCarthy.
Voilà. Alors, écoutez, un grand, grand merci à vous tous qui nous avez proposé des titres très divers, des genres très divers également. Écoutez, j'espère que nos auditeurs auront soigneusement noté, mais n'oublions pas qu'on peut podcaster l'émission une fois qu'elle est diffusée, n'est-ce pas,
hein, vous avez... Absolument.
Bon, voilà. Et puis, nous écouterons d'autres participants à cette radio, à ceux qui la font vivre, puisque d'autres se sont inscrits pour parler de leurs livres, de leurs coups de cœur, des livres qu'ils aiment. Un grand merci à vous, en tout cas, et à bientôt.
Et merci, Monique.
Merci Monique.